Alors justement, quand on parle d'enfants, ça vous inspire quoi? Certains d'entre vous avaient eu des enfants, peut-être que vous avez atteint un âge où vous avez fini de les élever. Et peut-être que vous avez gardé de bons souvenirs de cette période où vous aviez des enfants à la maison. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que vous avez eu des enfants sans les vouloir, qui sait, je ne sais pas. D'autres parmi vous avaient eu des enfants et ils sont encore jeunes, et j'en vois qui sont encore jeunes, des enfants, parmi nous aujourd'hui. Et cette période où vous êtes en train de les élever, franchement, elle n'est pas facile. Et je peux avoir beaucoup de sympathie pour vous, parce que nous-mêmes, nous avons des enfants assez jeunes encore, et ce n'est pas toujours facile. Vos enfants sont pour vous tantôt une joie, puis tantôt, il faut bien le dire, un fardeau. D'autres encore parmi vous n'avaient pas encore eu des enfants. Mais peut-être que c'est imminent. Peut-être que vous venez de vous marier, peut-être que vous êtes enceinte, je ne sais pas. Et cela vous inspire peut-être de la joie, mais en même temps, peut-être aussi, de l'appréhension. D'autres encore parmi vous n'êtes pas encore mariés, peut-être même que le mariage reste une perspective assez lointaine, et donc par conséquent, l'idée d'avoir des enfants est aussi une perspective encore assez lointaine. Et dans ce cas, vous êtes peut-être dans un de ces deux cas. Peut-être que vous avez vraiment hâte d'y être. À ce jour, vous serez marié, vous pourrez avoir, par la grâce de Dieu, des enfants. Et peut-être que vous êtes dans l'autre cas. Peut-être que pour vous, avoir des enfants, c'est quelque chose qui vous terrifie. Ou peut-être que c'est quelque chose qui vous répugne, hein, je ne sais pas. Les enfants, ça inspire des choses très différentes aux gens. En fonction de leurs valeurs, bien sûr, mais aussi, peut-être surtout, en fonction des expériences que nous avons eues. Hein, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, ou en tant que cousin, ou en tant que tonton et tata, etc. Pour certains, les enfants sont des boulets. Pour d'autres, les enfants sont des rois. Pour d'autres, ils représentent l'expression ultime de l'amour conjugal. Pour d'autres, les enfants font l'objet de ce qu'on appelle de nos jours un projet parental. Et certains considèrent même les enfants pratiquement comme une marchandise. Mais à vous, ce soir, ça vous inspire quoi, les enfants? Si je vous pose la question, c'est évidemment parce que le texte qu'on va lire, et auquel on va s'intéresser ce soir, parle des enfants. Et soulève, je pense, cette question de savoir comment, en tant que croyant, notre relation à Dieu, en tant que croyant, comment notre relation à Dieu devrait conditionner notre relation à nos enfants. Que ces enfants existent pour vous aujourd'hui ou pas encore? Comment notre relation à Dieu devrait conditionner notre relation à nos enfants. Et vous allez voir que c'est un psaume un peu particulier, qui est divisé en deux parties, deux strophes. Bon, c'est courant qu'il y ait des strophes dans les psaumes. Mais ici, dans ce psaume, on a l'impression que ces deux parties, ces deux strophes, a priori, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais en réalité, l'ensemble de ce psaume nous parle de manière général, c'est le thème qui unifie l'ensemble de ce psaume, nous parle de la façon dont notre relation à Dieu conditionne notre relation à tout le reste. Et en nous parlant de la façon dont notre relation à Dieu conditionne notre relation à tout le reste, le psalmiste va appliquer ce principe en particulier à la question des enfants qui naissent dans nos familles, à nous qui sommes croyants. La question c'est comment devrait-on considérer ces enfants ? Et plus généralement, comment, si ces enfants n'existent pas encore chez vous, dans votre famille, comment devrait-on considérer la question de l'enfantement, étant donné notre relation à Dieu? Vous voyez, c'est une question quand même très spécifique, très pointue, très particulière, même une question un peu originale. C'est pas toute la Bible qui parle de ça. Et c'est d'autant plus original que l'on a pu jusqu'à présent voir que c'était pas vraiment un thème des autres psaumes, de cette série de psaumes à laquelle nous nous intéressons, à savoir les psaumes dits des montées, les cantiques des montées ou des degrés qui couvrent les psaumes 120 à 134. Donc c'est relativement original. Et si vous lisiez du psaume 120 au psaume 134, d'une seule traite, vous liriez le psaume 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, ok? Et puis tiens, tout d'un coup, psaume 127, on parle des enfants. Tiens, c'est curieux, c'est original. Et finalement, le message que ce texte veut nous transmettre, d'ailleurs, petit détail, le psaume 127, c'est le psaume qui est au centre de cette série. Il y en a 15 en tout, il y en a 7 avant, 7 après. Psaume 127 en plein milieu. Okay. Le message, finalement, que ce texte veut nous transmettre, vous allez voir, il est tout simplement le suivant. Ce n'est pas bien compliqué. Quand on est croyant, c'est trop bien d'avoir des enfants. Point. C'est ça le message de ce psaume. Quand on est croyant, c'est trop bien d'avoir des enfants. Et attention, je n'ai pas dit c'est trop facile. Je n'ai pas dit c'est trop agréable. J'ai dit c'est trop bien. C'est trop bien. Et vous allez voir comment le texte développe cette idée. Autrement dit, avoir des enfants dans le cadre d'une famille chrétienne, dans le cadre de l'Église, plus généralement, c'est une bonne chose. C'est un privilège. C'est une bénédiction. Et on va voir non seulement pourquoi c'est le cas, mais on va voir aussi que cette réalité, cette conscience des choses, devrait entraîner des conséquences dans notre vie, et tout particulièrement, évidemment, en tant que parents ou parents potentiels ou futurs parents. Alors on va lire le texte. Cantique des montées de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent. Celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Prions. Merci Seigneur pour ce texte qui fait l'objet de notre étude. Ce soir, nous te remettons ces moments de réflexion afin que toi-même les conduises et les rendes fructueux par l'action de ton Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, amen. Quand on est croyant, c'est trop bien d'avoir des enfants. Bon, ça c'est l'idée que j'espère que vous retiendrez. Mais vous avez vu que le psaume n'aborde pas tout de suite, directement et explicitement cette question. Il y a d'abord au verset 1 et 2, une leçon plus générale qui nous est donnée. Et qui est la suivante. Puisque la souveraineté de Dieu s'étend à toutes les entreprises des hommes, tous ceux qui ont la faveur de Dieu peuvent affronter la vie, toute la vie, sereinement. Je répète. Puisque la souveraineté de Dieu s'étend à toutes les entreprises des hommes, tous ceux qui ont la faveur de Dieu peuvent affronter la vie, sereinement. Le psalmiste est en train ici de souligner, dans un premier temps, l'effet global de la relation d'un homme à Dieu. Tout le monde ici-bas est confronté au même projet, globalement. On est tous confrontés au même projet, construire une maison ou fonder une famille, vivre en société, travailler pour mettre du pain sur la table. Tout le monde est confronté à ces choses. Et tous ces projets, toutes ces dimensions de l'existence des hommes, quels qu'ils soient ces hommes, toutes ces choses sont en réalité subordonnées à la volonté souveraine de Dieu. Et donc tu peux réfléchir méticuleusement à tes projets, bosser comme un malade, te consacrer scrupuleusement à ta famille. Si Dieu ne t'accorde pas sa faveur, ça ne servira à rien. C'est ça qu'il dit le psalmiste. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est vain, c'est futile, ça ne sert à rien. En fin de compte, tu peux y mettre tous les efforts que tu veux, toute l'intelligence que tu veux, ça ne servira à rien si Dieu ne t'accorde pas sa faveur. Ça ne marchera pas, ça ne réussira pas, ça ne te rapportera rien. Mais en même temps, il y a, d'après Salomon, qui est l'auteur de ce psaume, vous avez vu en titre, d'après Salomon, il y a quand même quelque chose qui fait toute la différence entre les hommes. Et ce qui fait toute la différence entre les hommes, c'est ce qu'il mentionne presque en passant, enfin non, c'est pas en passant, c'est un peu la moralité de ces deux premiers versets, à la fin du verset 2, ce qui fait toute la différence, c'est de savoir si on est bien aimé de Dieu ou pas. Salomon dit que celui qui est bien aimé de Dieu, c'est-à-dire celui qui a la faveur de Dieu, celui qui fait l'objet de l'amour de Dieu, va avoir la même vie que les autres, les mêmes projets, les mêmes entreprises, les mêmes préoccupations matérielles, quotidiennes. Mais lui au moins, celui qui a la faveur de Dieu, celui qui est bien aimé de Dieu, lui au moins, il va affronter tous ses projets et toutes ses responsabilités avec une sérénité telle que ce sera comme s'il était constamment au repos, pratiquement comme s'il dormait. Tellement il est tranquille. Alors il y a une petite difficulté de traduction sur la fin du verset 2. Et peut-être que dans votre version, vous avez une autre traduction que celle que j'ai lue. Mais l'idée en général est la même. Le bien-aimé de Dieu, c'est celui qui affronte la vie, la même vie que les autres, mais lui, il est au repos. Il est serein. Il est paisible. Il est confiant. Il ne perd pas le sommeil à cause de toutes ces choses. C'est pas que ce gars-là va pas travailler. C'est pas qu'il va pas travailler dur, comme si tout allait lui être donné sur un plateau. Pas du tout, c'est pas ça que dit le psalmiste. Mais sachant, cet homme qui sait que Dieu l'aime, sachant que Dieu est absolument souverain, ce qui coule de source, puisque Dieu est souverain par définition, et sachant d'autre part que ce Dieu souverain l'aime, eh bien cet homme-là va pouvoir appréhender sa vie en paix. Il sait que sa vie est subordonnée à la volonté d'un Dieu qui l'aime. Qui l'aime. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du kayak biplace? Vous voyez ce que c'est qu'un kayak biplace? Une petite embarcation, un petit canoë avec deux places. Imaginez un jeune garçon de 5 ans, l'âge d'Étienne, vous voyez, qui prendrait place à l'avant d'un kayak avec sa petite pagaie adaptée à sa taille, tout excité, de partir à l'aventure sur une rivière pendant ses vacances. Bon. Et il se rend pas compte, ce jeune garçon, que son père, qui est grand, costaud, un peu comme moi, vous voyez, se met à l'arrière avec sa pagaie à lui, adaptée à sa taille, à ses muscles. Donc une belle pagaie bien robuste, d'accord ? Mais le jeune garçon qui est devant, il se rend pas compte de la présence de son papa derrière. Il est tout excité de partir à l'aventure. Il pense que c'est lui qui est en train de diriger l'embarcation. Pensez-vous, il est devant. Ouais, super, c'est génial, ça va vite, on va tourner à droite, à gauche. Sauf que le courant commence à être un peu plus rapide. Et puis la rivière commence à devenir de plus en plus sinueuse. Les rochers se font de plus en plus nombreux et menaçants. Et là, il commence à essayer de virer à gauche et ça part à droite. Et il commence à essayer de virer à droite, ça part à gauche. Et le jeune garçon, le pauvre, il commence à paniquer, il a peur. Il transpire, il redouble d'efforts sur sa pagaie. Mais je vais y arriver à la faire tourner à droite, ce kayak. Jusqu'à ce qu'il se rende compte, évidemment, de la présence de son papa derrière. De son papa qu'il aime. Et qui est assis juste derrière lui. Et que finalement, c'est lui qui, depuis le début, contrôle l'embarcation. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, les circonstances extérieures ne changent pas. Ce sont les mêmes rapides, les mêmes rochers, la même rivière, les mêmes virages. Les circonstances extérieures ne changent pas. Mais les circonstances intérieures de ce jeune garçon ont complètement changé. Elles ont complètement changé. Et le jeune garçon va affronter la même réalité, mais cette fois en paix. Tranquille, rassuré, parce qu'il sait que son papa est là. Et qu'il a une plus grosse pagaie que lui. Et surtout que son papa l'aime. Et donc que son papa va utiliser la grosse pagaie pour le bien de son enfant. Il est rassuré. Et c'est donc ça que le psalmiste veut nous faire comprendre dans un premier temps. Puisque la souveraineté de Dieu s'étend à toutes les entreprises des hommes, tous ceux qui ont la faveur de ce Dieu Tout-Puissant peuvent affronter la vie et toute la vie sereinement. Quand on est bien aimé de Dieu, quand on est bien aimé du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des galaxies, vous rendez compte, quand on est bien aimé de Dieu, on n'a plus la même relation au monde qui nous entoure, on n'a plus la même relation à tout le reste. Mais cette affirmation provoque inévitablement une question chez tous les lecteurs attentifs de ce texte. La question, c'est la suivante. Suis-je bien-aimé de Dieu ? Suis-je bien-aimé de Dieu ? Et ce qui est sous-entendu dans ces deux premiers versets, c'est que ceux qui sont bien-aimés de Dieu sont ceux qui sont en relation avec lui selon les termes de son alliance, c'est-à-dire selon les termes de sa révélation, selon les termes de ses promesses, de tout ce qu'il a révélé jusqu'alors. C'est-à-dire, ceux qui sont bien-aimés de Dieu sont ceux pour qui l'Éternel est Dieu et qui lui font confiance sur la base de ses promesses. alors il est sûr que tous les termes de cette alliance ne sont pas énumérés explicitement dans les quelques versets de ce psaume. Mais Salomon, c'est pas n'importe qui, hein, il a une grande sagesse. Et il est au courant de tout ce que Dieu a déjà révélé jusqu'alors. Et beaucoup des contemporains de Salomon qui ont reçu ce psaume, et beaucoup des Israélites qui, après Salomon, ont chanté ce psaume très régulièrement, sont au courant aussi de tout le reste, de tout ce que Dieu a déjà révélé. Et tous ces gens-là savent, et nous aussi on peut le savoir, parce que nous on a la Bible, et non seulement on a ce que les Israélites avaient, mais on a encore le Nouveau Testament en plus. Donc nous aussi nous pouvons savoir que Dieu a promis sa faveur à tout un ensemble d'hommes, de femmes et d'enfants, non pas sur la base de leur propre mérite, mais sur la base des mérites d'un certain personnage qui est annoncé dans l'Ancien Testament comme étant le Messie, le serviteur, celui qui doit venir, réaliser des choses de la part de Dieu, en faveur du peuple de Dieu, quelqu'un d'irréprochable qui sera l'ultime et parfait bien-aimé de Dieu. Il n'y aura pas de plus bien-aimé que lui, et qui va représenter ses hommes, ses femmes et ses enfants auprès de Dieu, de sorte que la faveur dont le bien-aimé avec des majuscules de Dieu bénéficiera sera aussi étendue, cette faveur sera aussi étendue à tous ceux qu'il représente. Mais Salomon, il le sait ça, parce que son père lui a dit, son père c'est le roi David, il a reçu des promesses, je ne vous dis pas. Et puis il sait tout ce que Moïse a transmis au peuple. Et nous, on a tout ça, et bien plus encore avec tout le Nouveau Testament. Le bien-aimé de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les hommes qui sont bien-aimés de Dieu et qui doivent se sentir concernés par ce verset 2, sont ceux qui sont représentés auprès de Dieu par le bien-aimé, à savoir le Messie. Ce personnage, je ne vous apprends rien, j'espère ce soir, c'est Jésus. Jésus-Christ qui est venu de la part de Dieu, payé à la place des hommes le prix de leur faute, afin que Dieu leur soit propice justement. Jésus a représenté ces gens-là, ces hommes, ces femmes et ces enfants. Il a représenté ces gens-là quand il est mort sur la croix. Il les a représentés quand il est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité, et il les représente encore aujourd'hui, maintenant qu'il est monté au ciel auprès du Père et qu'il intercède pour eux. Et donc, pour répondre à la question que j'ai posée, suis-je un bien-aimé de Dieu ? Oui, vous êtes aujourd'hui bien-aimé de Dieu si Jésus vous représente auprès du Père, auprès de l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Et il vous représente si vous lui faites confiance. Mais est-ce le cas aujourd'hui ? Je l'espère, pour chacun de nous. Et si c'est le cas, sachez que le Dieu Tout-Puissant qui contrôle toutes les circonstances de votre vie vous est propice. Sachez que le Dieu Tout-Puissant qui contrôle le cosmos, ce Dieu-là, vous est propice si Jésus vous représente auprès de lui. Et il en est ainsi pour l'éternité. Voilà, voyez-vous, ce qui a le potentiel de changer radicalement notre relation à tout le reste. Vous comprenez ce que je disais au début ? Notre relation à Dieu conditionne notre relation à tout le reste. Et c'est donc ça que Salomon veut nous faire comprendre dans ces deux premiers versets. Notre relation à Dieu conditionne notre relation à tout le reste. Mais maintenant, pour le reste du psaume, à partir du verset 3, il veut nous montrer que notre relation à Dieu conditionne tout particulièrement notre relation à nos enfants. À nos enfants, que ces enfants existent aujourd'hui ou qu'ils n'existent pas encore. Il nous a donc montré l'effet global de la relation d'un homme à Dieu. Il nous montre maintenant l'effet plus particulier, l'effet familial de la relation d'un homme à Dieu. Et ce qu'il nous dit ici, c'est tout simplement que si nous sommes croyants, nous devons considérer nos enfants d'une façon toute particulière. Nous devons les considérer comme un cadeau précieux de la part de ce Dieu souverain. Et nous devons les élever en conséquence. C'est ça que Salomon veut nous faire comprendre. Et si vous doutez que les enfants soient des cadeaux, qu'ils soient des cadeaux, regardez de nouveau les termes très forts qui les désignent ici dans ces versets. Héritage de l'Éternel, récompense, flèche dans la main d'un héros. Et comme si on avait encore du mal à comprendre, le psalmiste ajoute une béatitude. Heureux l'homme, il explose de joie, là. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, c'est-à-dire l'homme qui en a plein, j'ai envie de dire dans les poches, non ça rentre pas dans les poches, mais le gars qui en a plein quoi, autour de lui. Heureux le papa qui a plein d'enfants, c'est ça qu'il est en train de dire, hein, au verset 5. Et j'ajoute que c'est la première fois qu'on a une béatitude dans cette série de psaumes. La première fois que le psalmiste s'exclame « Mais heureux les hommes qui ?» L'homme qui ? C'est fort. Pour le psalmiste, vous voyez, les enfants des croyants sont une bénédiction pour leurs parents. Ils sont non seulement une bénédiction, mais encore un trésor et une fierté. Et tout cela vient de Dieu. Waouh ! Alors, quand on est vraiment convaincu de ça, qu'est-ce que ça change à la façon dont nous percevons nos enfants, ceux qui sont déjà grands, ceux qui sont encore petits ou ceux qui sont entre les deux? Comment cela va-t-il changer la façon dont nous percevons peut-être nos futurs enfants, nos enfants en tant que concept? Comment cela va-t-il changer la façon dont nous percevons l'idée de l'enfantement, l'idée d'avoir des enfants? Alors, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Si vous aviez oublié, il n'est pas encore trop tard pour me faire des cadeaux. C'était mon anniversaire la semaine dernière, et pour mon anniversaire, quelqu'un m'a offert un mug de l'équipe de foot, un mug, une tasse de l'équipe de foot de Saint-Étienne. Alors, comme je suis plutôt supporter de l'Olympique Lyonnais, parce que je suis lyonnais de naissance, eh bien, ce mug, c'est pas exactement quelque chose que je me serais acheté, moi. D'accord ? D'ailleurs, c'est sûr, je pense que jamais j'aurais dépensé un copec sur un objet qui portait les couleurs de l'ASSE, c'est-à-dire l'équipe de foot de Saint-Étienne. Mais il se trouve, tiens, bizarre, il se trouve que je prends le plus grand soin de ce mug depuis qu'on me l'a offert. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la personne qui me l'a offert, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais non seulement cela, mais ce mug représente quelque chose de précieux pour la personne qui me l'a offert, puisque cette personne est plutôt d'allégeance stéphanoise en termes de foot et de sport. Donc ce mug, si vous voulez, cette tasse, c'est pas comme si je l'avais trouvé dans une brocante et que je l'avais acheté 50 centimes, ce que de toute façon j'aurais pas fait. Mais quelle est la moralité de cette illustration un peu pathétique? Quelle est la moralité? La moralité, c'est que nous prenons le plus grand soin de ces choses qui sont en notre possession et qui sont des cadeaux attentionnés de la part de gens que nous apprécions. C'est tous comme ça. Même si ce sont des choses qu'on n'aurait pas achetées nous-mêmes. Et dans une famille chrétienne, les enfants entrent dans cette catégorie de cadeaux attentionnés reçus de la part de quelqu'un que nous apprécions. Les enfants entrent dans cette catégorie. Tout croyant, du fait de sa relation à Dieu qui conditionne sa relation à tout le reste, du fait de cela, tout croyant doit considérer ses enfants ou ses futurs enfants, et d'ailleurs tout enfant dans l'Église, comme des entités particulièrement précieuses aux yeux de Dieu. Particulièrement précieuses aux yeux de notre Dieu Tout-Puissant. Ces enfants ont été confiés par lui, par ce Dieu-là, ce Dieu Tout-Puissant, au bon soin de leur famille, et tout particulièrement, bien sûr, de leurs parents. Et ce qui est sous-entendu tout au long de ces trois versets, hein, versets 3 à 5, c'est que les enfants des croyants, les enfants de l'Église, les enfants du peuple de Dieu, ont une valeur toute spéciale aux yeux de Dieu. Dieu a déjà placé sur eux un appel particulier. Ils sont un héritage, ils le sont déjà, un héritage de l'Éternel, un héritage et une récompense, et des flèches dans la main des héros, et une bénédiction, et une fierté. Voilà ce que sont les enfants dans l'Église, voilà ce que sont les enfants dans les familles de croyants. Et ces enfants-là sont appelés solennellement à être instruits par leurs parents dans toutes les promesses que Dieu adresse à son peuple. Ils sont appelés solennellement à répondre à ces promesses par la foi, comme leurs parents ont répondu à ces promesses par la foi. Ils sont appelés solennellement à leur tour à assumer pleinement cette sainte vocation que Dieu leur adresse pour ce qui est de leur vie dans le monde. Et voilà pourquoi je disais que dans cette deuxième partie du psaume, Salomon veut nous faire comprendre que si nous sommes croyants, nous devons considérer nos enfants comme un cadeau précieux de la part du Dieu souverain et les élever en conséquence. Ça veut dire au moins deux choses pour nous, les croyants, à mon avis en tout cas. D'abord, ça veut dire que nous devons élever nos enfants en leur faisant comprendre qu'ils sont dans le peuple visible de Dieu. Ils sont dans le peuple visible de Dieu. Ils y ont leur place, Dieu les a placés là. Et à mon avis, nos enfants de croyants devraient d'ailleurs porter sur eux le signe de cette appartenance et des promesses que Dieu adresse à son peuple, ce signe étant le baptême. Mais si vous avez du mal à comprendre ça, on peut en discuter plus tard. Nous devons en tout cas les élever, ces enfants, en les instruisant dans les voies de celui qui est déjà le Seigneur de la famille, le Seigneur du foyer, le Seigneur de son peuple, le Seigneur de l'Église. On doit les élever et en les avertissant et en les corrigeant selon le Seigneur. C'est ce que dit Paul hein, dans Éphésiens 6, verset 4. On doit les élever en les instruisant dans ses voies, dans les voies de celui qui a déjà dit à leur sujet, au sujet de ses enfants, qui sont son héritage, c'est-à-dire un héritage qui à la fois provient de Dieu et qui appartient à Dieu. Mes amis, ce sont des termes très forts. Héritage de l'Éternel, récompense et tout le reste. Mais la seconde chose que ça devrait entraîner chez nous, les croyants, si on est profondément convaincu de tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, la seconde chose que ça devrait entraîner chez nous, c'est un plus grand amour pour nos enfants. Une plus grande reconnaissance pour le privilège inouï que cela constitue d'en avoir. Ou d'en avoir eu. Et peut-être d'en avoir un jour par la grâce de Dieu. Cela devrait entraîner chez nous un plus grand soin en ce qui concerne leur instruction et leur éducation. Peut-être aussi cela devrait-il entraîner chez nous ou chez vous un plus grand désir d'en avoir, si c'est quelque chose que vous percevez comme étant quelque chose de négatif aujourd'hui. D'en avoir et d'en élever. Mais pour conclure, j'espère que vous avez vu pourquoi je disais en introduction que le message principal de ce psaume était finalement tout simple. Quand on est croyant, c'est trop bien d'avoir des enfants. Quand on est croyant, c'est trop bien d'avoir des enfants. Et on a vu que l'ensemble de ce psaume nous parlait de manière générale de la façon dont notre relation à Dieu conditionnait notre relation à tout le reste. Et on a vu que le texte appliquait ce principe, dans un deuxième temps, en particulier à la question des enfants qui naissent dans nos familles, à nous qui sommes croyants. Notre relation à Dieu a donc une portée globale. Quand on fait confiance à Dieu sur la base de ses promesses, lorsque nous sommes attachés au Messie, c'est-à-dire à Jésus qui nous représente auprès du Père, eh bien nous avons par conséquent une parfaite sécurité. Nous pouvons en être profondément convaincus et donc nous pouvons affronter toutes les circonstances de la vie, tous nos projets, toutes nos responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou familiales, en sachant que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous est propice. Lui qui gouverne le monde, qui gouverne l'histoire, lui qui nous aime et qui ne va jamais, jamais, jamais nous abandonner, parce que Jésus, le bien-aimé de Dieu, nous représente auprès de lui. Mais notre relation à Dieu, on l'a vu, a aussi une portée particulière, en l'occurrence, une portée familiale. Sachant que le peuple de Dieu a la faveur de Dieu en Jésus-Christ, eh bien ce texte nous affirme que les enfants du peuple de Dieu, les enfants des familles chrétiennes, sont particulièrement précieux aux yeux de Dieu. Ce texte nous enseigne que nous devons les élever en conséquence, avec joie, avec dévouement. Et ces jours-ci, dans l'actualité, on parle beaucoup des enfants en lien avec un dossier en particulier qui est celui de la loi Taubira, visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Et dans quelques mois, enfin, si vous suivez les débats, vous savez qu'on parle beaucoup des enfants en lien avec ce dossier. Dans quelques mois, un texte de loi sera proposé visant à ouvrir la procréation médicalement assistée à tous les couples, y compris aux couples de même sexe. Et le but étant, un but sans doute fort compréhensible, le but étant de satisfaire chez ces couples-là leur désir d'enfant, un désir profond et certainement naturel. Mais voici la perspective biblique. Homo ou hétéro, fécond ou stérile, nos enfants ne nous sont pas dus. Nos enfants ne nous sont pas dus. Avoir des enfants est un privilège. C'est un cadeau de la part de quelqu'un que nous apprécions, un cadeau attentionné. Nos enfants sont des dons et pas des dus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc nous ne devons ni mépriser ce privilège, ni à l'inverse le réclamer comme un droit. Et le faire à plus forte raison à l'encontre de la providence de Dieu, lui qui gouverne toutes choses. C'est un privilège d'avoir des enfants, un privilège qui se reçoit simplement avec reconnaissance lorsque Dieu le permet. Ce n'est pas forcément facile, ni toujours agréable, et ce n'est pas non plus un droit, mais c'est bien d'avoir des enfants. Amen. On va prier. Merci notre Dieu pour ta parole qui vraiment a une portée pratique dans tous les domaines de notre vie. Et en ayant étudié ce psaume, nous te prions de maintenant faire fructifier ta vérité dans notre cœur et dans notre vie, pour nous conformer à l'image de celui qui est le bien-aimé par excellence, à savoir ton Fils Jésus-Christ. Et qu'ainsi, nous individuellement, mais aussi en tant que famille et dans notre relation avec nos enfants ou nos futurs enfants, nous puissions t'honorer, Seigneur. Amen.